Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est 13h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de cette édition, la canicule s'étend en France. Plus d'un habitant sur deux est concerné par la vigilance orange dans 53 départements. Dans le sud du Liban, des frappes israéliennes ont fait 18 morts et 33 blessés dans la nuit. Selon un bilan provisoire du ministère de la Santé à Beyrouth, l'armée israélienne a fait état de 4 morts de ses soldats. La ville de Paris attribue la citoyenneté d'honneur aux civils et journalistes palestiniens. La mesure était réclamée de longue date par une partie de la majorité de gauche du Conseil de Paris. Nous l'avons évoqué dans les titres, la France suffoque sous l'effet d'une canicule précoce et exceptionnelle. Plus d'un habitant sur deux est désormais concerné par une vigilance orange, tandis que les autorités multiplient les appels à la prudence. Écoles, entreprises, événements culturels, tout le pays s'adapte à un épisode de chaleur appelé à durer plusieurs jours. On fait le point avec Nadia Bencher.
La chaleur continue de gagner du terrain. 53 départements sont désormais placés en vigilance orange canicule, soit plus de 36 millions de Français concernés. Parmi eux, quelques 9,7 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus, dont 3,8 millions de 75 ans ou plus pourraient constituer des publics vulnérables. Selon Météo France, l'épisode s'annonce à la fois étendu, durable et particulièrement intense. Le pic est attendu entre dimanche et mardi, avec des températures pouvant atteindre localement les 40 degrés dans l'ouest et le centre du pays. Face à cette situation, le président Emmanuel Macron appelle à une vigilance accrue, notamment envers les personnes âgées et les publics les plus fragiles. Dans les entreprises, les horaires de travail sont réaménagés pour limiter l'exposition aux fortes chaleurs. Sur certains chantiers, les journées commencent désormais dès l'aube afin d'éviter les heures les plus chaudes. Les établissements scolaires tentent eux aussi de s'adapter. Plusieurs écoles ont décidé de fermer temporairement ou d'alléger leur fonctionnement. Dans certaines académies, des épreuves du baccalauréat ont même été reportées. La canicule perturbe également les manifestations prévues ce week-end. Plusieurs communes ont annoncé l'annulation des festivités de la fête de la musique, tandis que les autorités recommandent de limiter les activités sportives en extérieur. Pour les climatologues, cet épisode s'inscrit dans une tendance de fond. Les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, plus longues et plus intenses sous l'effet du réchauffement climatique. Un constat qui oblige désormais les collectivités, les entreprises et les citoyens à s'adapter à des étés de plus en plus extrêmes.
Et un total de 784 écoles et collèges sur 60 000 établissements scolaires en France ont décidé d'aménagement d'horaires selon le ministre de l'Éducation nationale et plus de 4 000 candidats au baccalauréat voient leur oraux décalé. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, évoque lui une probable vigilance rouge pour un certain nombre de départements à partir de dimanche et il n'y a pas selon lui de remise en cause de la fête de la musique. Direction le Moyen-Orient, dans le sud du Liban, des frappes israéliennes ont fait 18 morts et 33 blessés dans la nuit, selon un bilan provisoire du ministère de la Santé à Beyrouth. L'armée israélienne a fait état de la mort de 4 de ses soldats. Israël fera payer un prix très lourd au Hezbollah, a annoncé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, avant d'ajouter que l'armée israélienne restera au sud du Liban aussi longtemps que nécessaire. Le ministre de la Sécurité nationale israélien Itamar Ben-Gvir, figure de l'extrême droite et allié politique du premier ministre israélien, a déclaré lui que tout le Liban doit brûler. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, a appelé lui Israël à respecter le protocole d'accord signé mercredi entre l'Iran et les États-Unis et qui prévoit la fin des hostilités, y compris au Liban. Jean-Noël Barrot.
Le premier principe édicté par cet accord trouvé entre les États-Unis et l'Iran, c'est la cessation des hostilités sur tous les fronts et notamment sur le Liban. Les Libanais sont exaspérés, ils ont payé un prix extrêmement lourd à ce conflit dont ils ne voulaient pas. Cet accord prévoit la cessation des hostilités, le gouvernement israélien doit le respecter. Et les États-Unis en particulier doivent exercer toute la pression nécessaire sur le gouvernement israélien pour que ce soit le cas. De l'autre côté, évidemment, le Hezbollah Hezbollah, qui est entré dans cette guerre instruit par l'Iran et pour soutenir le régime iranien, doit lui aussi non seulement cesser toute hostilité, mais s'engager dans un processus de désarmement pour que l'État libanais puisse disposer du monopole des armes et assurer la protection de l'intégrité de son de l'intégralité de son territoire. Et j'appelle toutes les parties à respecter scrupuleusement les termes de l'accord. Eh bien, nous nous tenons à côté du peuple libanais, côté de son président, de son premier ministre, qui était présent à Paris hier, avec lequel nous sommes entretenus, pour être à leur écoute et leur apporter tout le soutien nécessaire, notamment pour renforcer l'armée libanaise, qui doit pouvoir reprendre pleinement possession de l'ensemble du territoire.
Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Ce protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient semble donc vaciller avec ces violences meurtrières au Liban, mais aussi le report des négociations qui étaient censées être prévues en Suisse aujourd'hui. Et un total de 25 navires commerciaux ont passé le détroit d'Ormuz aujourd'hui, un volume inédit depuis la mi-avril. Dans le reste de l'actualité mondiale 2026, l'Iran a annoncé porter plainte auprès de la FIFA à cause des restrictions pour entrer aux États-Unis, l'empêchant selon elle d'aborder sereinement son prochain match contre la Belgique dimanche. En Ukraine, deux personnes ont été tuées dans des bombardements russes, dont un enfant de 8 ans et un marin qui se trouvait sur un navire en mer Noire, selon les autorités ukrainiennes. En France, un homme soupçonné d'avoir espionné une usine française de drones au bénéfice de la Russie a été mis en examen et placé en détention provisoire début juin, selon Le Parisien. Et nous l'avons évoqué dans les titres, la ville de Paris attribue la citoyenneté d'honneur aux civils et journalistes palestiniens. La mesure était réclamée de longue date par une partie de la majorité de gauche du Conseil de Paris. La droite a voté contre. Barbara Gomez, adjointe du maire de Paris, se félicite de cette décision dans une vidéo publiée sur son compte X.
Ça y est, c'est officiel, la ville de Paris vient de faire voter la citoyenneté d'honneur aux civils palestiniens de Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est. Ce vote, il est le fruit du combat de longue date porté notamment par Raphaël Primet et Yann Brossa, qui sont deux militants de longue date de la cause palestinienne. Ce vote, il honore la ville de Paris. Il était temps d'ailleurs que les civils palestiniens qui subissent aujourd'hui un génocide, qui subissent la violence de la colonisation, puissent aujourd'hui être reconnus par cette citoyenneté d'honneur. Et nous portons avec vous l'espoir d'un avenir meilleur et d'une paix enfin retrouvée.
Barbara Gomez, adjointe au maire de Paris. Dans le reste de l'actualité, le footballeur international marocain Achraf Hakimi sera jugé pour viol devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine, selon la cour d'appel de Versailles. Une victoire judiciaire et un soulagement, je cite, pour la plaignante. Et une occasion d'enfin pouvoir parler, je cite, pour le capitaine de l'équipe du Maroc. Dans l'affaire Liana, la collégienne de 11 ans retrouvée morte le 4 juin dans le Gers, a été violée et l'ADN du principal suspect, Jérôme Barella, retrouvé sur son corps, selon une source proche de l'enquête. Des éléments susceptibles donc d'élargir les poursuites le visant. Dans un tout autre volet, la défenseure des droits Claire Hédon a demandé au ministère de l'Intérieur d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre des policiers impliqués dans la mort en 2023 du jeune Naël Merzouk, en particulier l'auteur du tir mortel qui n'était pas absolument nécessaire selon elle. Ils font partie des acteurs qui pèsent sur la campagne électorale avant la présidentielle de 2027. Quelles sont les attentes des syndicats ? Entretien avec le secrétaire général de l'UNSA, interrogé hier lors des rencontres internationales du dialogue social qui se sont déroulées à Paris. Laurent Escure nous fait part de ses attentes lors de cette campagne et de sa crainte liée à la montée des populismes.
J'espère que d'abord la raison va l'emporter face aux menaces populistes, autoritaires, souvent antisyndicales et antidémocrates, qui peuvent prendre le pouvoir. Et donc, il faut trouver un récit positif pour le contrer, un contre-récit plus joyeux que les pulsions tristes qui risquent d'arriver aux affaires. Et donc, pour ça, il faut remettre sur la table les principes fondateurs de la République, le fait qu'elle devrait être sociale. Elle ne l'est pas.
Pourquoi elle ne l'est pas aujourd'hui ?
Parce que les inégalités, alors c'est les inégalités à travers le monde, mais en France également, sont trop fortes. L'inégalité de la répartition des richesses qui sont produites. Il ne s'agit pas d'inventer des fortunes qui n'existent pas. Mais il y a de la richesse qui est produite, y compris par les gens qui travaillent, et qui sont inéquitablement répartis. On a des milliardaires qui sont devenus encore plus milliardaires, tant mieux pour eux. Mais la période des 5 ou 6 dernières années, c'est une multiplication des fortunes des plus fortunés et une précarisation toujours plus grande de ceux qui travaillent, à qui on rabote des droits sociaux, des droits sur la protection sociale, à qui on fait subir de la modération salariale, à qui on enlève parfois pour eux leur seul patrimoine, c'est-à-dire les services publics de proximité, qui sont remis en cause, ou en tout cas qui sont pressurisés par des coups de rabot budgétaires. Donc je pense qu'il faut qu'on remette la barque dans le sens d'une espérance partagée, commune, qui ne fasse pas que la fortune de quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Sinon, les ressentiments seront de plus en plus puissants et donc l'issue sera fatale.
Cette espérance partagée, commune, cela passerait par quelles mesures concrètes, vous qui suivez de manière très active la vie politique française?
Il y a une vraie considération de ceux qui travaillent qui doit être faite par le salaire, par le fait que on pense que dans ce pays, beaucoup d'activités sont peu ou mal payées. Elles devraient l'être mieux. Et la deuxième, c'est rendre accessible sur tous les territoires, notamment les quartiers populaires, mais également les territoires ruraux, rendre accessible tous les communs et les commodités, c'est-à-dire les services publics, mais aussi des services essentiels comme l'accès à un médecin, l'accès à de la culture, à des commerces de première nécessité de très grande proximité. Voilà, donc c'est les deux sujets, d'un côté la barque sociale, le côté pouvoir d'achat, et de l'autre côté la fabrique du commun, accessible à tous.
Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA, au micro de François-Xavier de Calonne. Et enfin, un point sur le Mondial 2026. Le Mexique, l'un des trois co-organisateurs de la compétition, est devenu le premier pays qualifié pour les 16e de finale grâce à un succès 1-0 contre la Corée du Sud hier. Et après son match nul face au Brésil, le Maroc rencontre l'Écosse ce soir avec un coup d'envoi prévu à minuit. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.